carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Loeck.
L'âge d'or du romantisme allemand. Une exposition au Musée de la vie romantique à Paris jusqu'au 15 juin 2008. Canal Académie a le plaisir d'accueillir M. Daniel Marchessault, conservateur du patrimoine et directeur du musée romantique. Un musée, on peut dire, bien nommé, car il est romantique à souhait, au cœur d'un vieux quartier d'artistes en contrebas de Montmartre, nommé la Nouvelle Athènes. Monsieur Daniel Marchessault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également le co-commissaire de cette très belle exposition avec Henrik Sieveking, qui d'ailleurs nous accordera ultérieurement un entretien en langue allemande. Un mot tout d'abord de ce superbe musée que vous avez le bonheur de diriger et qui nous restitue si bien l'âme de la vie romantique. Cette exposition sur le romantisme allemand ne pouvait vraiment pas trouver un meilleur lieu d'hébergement. Le musée appartient à la ville de Paris, dont le maire, M. Bertrand Delanoë, a écrit la préface pour le catalogue de l'exposition. Alors tout de suite une question, votre musée en quelque sorte, est essentiellement ou exclusivement consacré à l'œuvre romantique ?
Oui, les collections du musée de la vie romantique sont exclusivement consacrées à la première moitié du XIXe siècle. En revanche, pour la politique d'exposition, nous avons de temps en temps eu et nous aurons de temps en temps des expositions plus modernistes, puisque nous avons eu une exposition sur un très grand artiste que l'Académie connaît bien, qui est le pastelliste, aquarelliste et peintre et dessinateur Sam Safran. On fait une exposition sur Pablo Picasso dans sa relation avec le graveur Piero Kremlinck.
Ah oui.
Nous avons également eu une exposition de photographie de Martine Franck. Martine Franck qui, à la ville, est Madame Henri Cartier-Bresson et qui est une femme photographe à part entière. Nous avons donc fait une exposition de Richard Lindner, qui est un peintre allemand qui a travaillé aux États-Unis et en France, qui est mort il y a une vingtaine d'années. Donc nous ne refusons pas d'examiner le XXe siècle à travers des tempéraments un petit peu marginaux par rapport à ce qu'on appelle le romantisme pur et dur. Naturellement, ceci étant, nous avons souhaité mettre l'accent sur le XIXe siècle dans son ensemble. Le XIXe siècle, c'est aussi bien, si vous voulez, le romantisme allemand dont nous allons parler aujourd'hui, que des artistes peut-être parfois un peu plus tardifs, comme le peintre Jean-Jacques Henner, qui était membre de l'Académie des Beaux-Arts et dont d'ailleurs vous avez parlé.
Absolument, oui.
Comme Constantin Guis, qui a été non seulement un très grand dessinateur, mais au fond un chroniqueur de la vie parisienne, dont nous avons montré un ensemble tout à fait remarquable de 120 aquarelles et dessins. Nous avons également montré l'œuvre de Gustave Moreau, qui est notre voisin, puisque le musée Gustave Moreau se trouve rue La Rochefoucauld. Donc vous voyez que nous ne nous interdisons pas de sortir du cadre un tout petit peu restrictif du romantisme, dans la mesure également où il s'agit pour nous de faire rayonner le musée de la vie romantique, d'une façon générale et auprès d'un public de plus en plus vaste, de plus en plus jeune également, et pour cela, il est intéressant d'avoir une politique peut-être plus dynamique sur le plan du modernisme que trop savante sur le plan du romantisme. On pourrait imaginer évidemment que nous nous contentions de travailler sur Georges Sand, dont nous avons célébré le bicentenaire, ou Frédéric Chopin, dont nous allons célébrer le bicentenaire en 2010. Mais je veux dire, on peut aussi sortir, on ne va pas faire Chopin, Georges Sand, Liszt, Marie Dagout, etc., etc. Il y a un moment donné où il faut tout de même respirer.
Ouvrir les portes de l'art, voilà. Un peu plus dans le contemporain éventuellement.
Voilà.
Oui, oui.
Mais j'ajoute que ce musée de la vie romantique est une maison particulière.
Oui.
Hein. C'est donc une demeure du 19e siècle. qui n'a pas beaucoup changé depuis qu'elle a été construite en 1830. Mais dans cette maison sont venus des écrivains, des artistes, des musiciens depuis 1830. Jusque dans les années 1960. En 1968, dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire, oui. Il y avait là, conduit par l'un des héritiers de la famille, Monsieur Olivier Revaud-Dallonne, qui était professeur à la Sorbonne, professeur d'esthétique, il y avait le Centre d'esthétique révolutionnaire pendant quelques semaines.
Ah,
donc
oui.
Vous voyez que c'est un lieu qui est quand même chargé d'histoire.
Absolument.
C'est un lieu qui, pendant la Commune, sous la Commune, a servi d'hôpital militaire. Donc, vous voyez que ce lieu a connu les affres et les bonheurs de chacun d'entre nous à travers une vie.
Ça mériterait de faire une émission
voilà,
particulière
c'est
sur
amusant.
L'histoire
voilà.
De notre musée. Oui. Mais revenons maintenant à l'exposition « L'âge d'or du romantisme allemand » avec son sous-titre « Aquarelle et dessin à l'époque de Goethe ». Et cette notion de romantisme allemand n'est-elle pas devenue un peu trop vague? Je me pose la question ensemble parce que M. Rosenberg de l'Académie française, qui fait bien sûr une contribution également au catalogue de l'exposition, il affirme, et j'ouvre les guillemets, le mot de romantisme, on l'a vidé de son sens, on l'a vidé de tout sens. Qu'en pensez-vous?
Il a parfaitement raison. Ce n'est pas parce que M. Rosenberg a été mon maître à penser quand j'ai commencé dans la carrière, mais il a parfaitement raison. Le romantisme, on va dire maintenant que les chaînes de télévision font des émissions romantiques avec des jeunes comédiens. C'est vrai que le mot romantisme est un peu vidé de son sens. Et au fond, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que le mot romantisme a deux sources, les sources anglaises et les sources germaniques. Romantisme vient d'abord du mot romanesque, au sens romanesque, au sens en britannique du terme, c'est-à-dire que c'est ce qui fait allusion d'abord au Moyen-Âge et en particulier à l'époque romane. On a également parmi les innombrables acceptions du terme, mais à Canal Académie, je suis très prudent, il y a également, naturellement, le sens du roman, ou au sens où on narre quelque chose, une histoire, une rêverie, une douleur, une passion.
Une épopée, éventuellement, chevaleresque.
Une épopée, chevaleresque. Et au fond, cela anticipe assez bien sur ce que l'on va très bien connaître au début du XIXe siècle en France, qui est le style troubadour et le retour au gothique, ce que les Anglais vont appeler le « Gothic Revival ». Et à la vérité, on doit à Walter Scott, à la fin du XVIIIe, et à certains de ses contemporains, des romans dans le goût du Moyen-Âge et qui remettaient au goût du jour, au fond, ces légendes qui faisaient rêver toute une génération. Pour ce qui concerne l'Allemagne, il faut s'en souvenir à l'époque, c'est une mosaïque de petits États, de petites principautés, de cités plus ou moins indépendantes, plus ou moins rivales, et qui étaient au fond fédérées par, au fond, une seule chose qui était la langue. Et c'est pour ça qu'on parle toujours du romantisme allemand, j'aurais tendance à parler du romantisme germanique. Parce qu'au fond, l'Allemagne, le mot Allemagne a une consonance politique, alors que le mot Germanie a peut-être une appréciation plus historique sur le plan d'une civilisation et sur le plan d'un courant de pensée. Et il est vrai que toutes ces cités, cette mosaïque de composantes politiques qui avaient leur indépendance, leur identité propre et qui en étaient d'ailleurs très jaloux, qui avaient chacun leur université, qui avaient chacun leur académie. On pense d'ailleurs aux trois grandes académies,
Berlin,
Dresde, Munich. Mais il y en avait naturellement d'autres.
À Vienne aussi.
Vienne, Hambourg,
etc. C'est encore autre chose,
oui,
parce qu'on est en Autriche.
Voilà, nous sommes dans l'Empire austro-hongrois, ce qui est encore un petit peu autre chose. Mais là encore, il y a tout de même un vecteur, le vecteur de la langue, qui, naturellement, est la colonne vertébrale de ce courant de pensée. Et Par conséquent, d'où le mot germanique que l'on ne peut pas employer en France parce qu'il est peut-être moins intelligible que le mot allemand.
Il fait un peu teuton.
Il fait un peu teuton. Peut-être pas d'ailleurs. Non, il fait... Enfin, il fait référence, c'est vrai, il fait référence au fond aux envahisseurs du 5e au 7e siècle, ce qui serait l'équivalent des Mérovingiens chez nous, si vous voulez. Et dans cette composante, dans ces composantes multiples, le romantisme allemand va être l'expression des passions telles qu'elles sont définies également par une obédience religieuse. Et là, nous sommes dans une préoccupation qui appartient beaucoup moins à la civilisation française ou à la civilisation anglaise. L'âme germanique est évidemment portée beaucoup plus par l'aspect confessionnel des protestants au nord, des catholiques au sud, et qui en tirent, et les uns et les autres, une réflexion, un mode de vie et une approche philosophique et esthétique extrêmement profonde et qui se nourrit d'elle-même dans la mesure où elle n'a pas à répondre de critères politiques qui, en France, appartiennent au centralisme régalien. Les académies en France, les 5 académies, ou en tout cas l'Académie française qui est le noyau de l'Institut de France, est une création de la royauté, et elle affirme le pouvoir central du royaume. Elle affirme l'unicité d'une langue, elle affirme l'abandon des langues, des patois, des langues régionales, les langues d'oc et les langues d'oil, et la composante centrale des grandes commandes artistiques du XVIIIe siècle sont d'abord d'ordre régalien. Alors qu'en Allemagne, ce n'est pas du tout le cas.
Avec les principautés.
Et d'ailleurs, les moyens financiers ne sont pas du tout les mêmes. Et alors, au fond, un certain nombre de ces artistes qui vivent très mal, puisqu'ils sont sans le secours, au fond, de grands commanditaires...
Ils sont souvent attachés aux duchés respectifs ?
Ils sont souvent attachés, pas toujours. D'ailleurs, un certain nombre vont... C'est la raison pour laquelle ils vont aussi faire le grand tour,
mais
pas du tout sur les mêmes bases que, par exemple, les aristocrates ou les fils d'aristocrates britanniques. Là, on est tout à fait dans autre chose. Et il s'agit pour eux soit de sortir du carcan politico-religieux de leur cité d'origine pour aller découvrir l'univers gréco-romain de la Renaissance et du baroque italien, du rococo, dont ils n'ont en fait en Allemagne qu'une interprétation travestie par l'adaptation au lieu. On pense, si vous voulez, si on pense à Tiepolo à Würzburg, les œuvres de Tiepolo, les grandes décorations monumentales au XVIIIe de Tiepolo, pour l'Allemagne, sont évidemment beaucoup plus adaptés au goût baroque allemand qu'au rococo italien stricto sensu. Et en revanche, un certain nombre d'Allemands veulent revenir aux sources.
Oui, absolument.
Et voilà.
Donc, ce mouvement du romantisme allemand, parce qu'il est communément nommé ainsi, se limite donc à cette période-là.
Oui, enfin, ce sont des approximations. Ça fait tout de même un demi-siècle.
Oui. Hein,
de 70 à 32,
ça
fait quand même 60 ans.
C'est
plus d'un demi-siècle. Nous avons quelques dessins quand même qui sont légèrement antérieurs et quelques dessins qui sont légèrement postérieurs. C'est évident qu'un mouvement ne commence pas à une date donnée et ne s'arrête pas à une date donnée, surtout dans le cas d'une approximation littéraire, puisqu'il s'agit là de la biographie de Goethe. Goethe ayant été évidemment, au fond, le mentor de ces générations, CES, puisqu'il y a effectivement 60 ans, à l'époque, ça fait forcément 5 générations.
Oui, le vieux sage, il a vécu 83 ans, il me semble. Oui. Et curieusement, d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui sont réunis dans cette exposition, qui sont morts très jeunes.
Oui, enfin, ça, c'est un phénomène qu'on oublie un petit peu en France, pour d'autres raisons que pour l'Allemagne. Pardon de cette incise, mais le dessin, l'art du dessin, durant cette période, est absolument le médium artistique le plus unanimement prisé en Allemagne, par tous et par chacun. Il y a là un niveau d'excellence et un idéal artistique qui est sans égal dans toute l'Europe. Ceci parce qu'il y a, comme à l'époque de Dürer, et dans le souvenir de l'époque de Dürer, une affirmation du génie germanique. Et ceci dès la jeunesse de ces artistes. Et beaucoup de ces artistes, en effet, sont morts jeunes, comme à l'époque, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient artistes, architectes, musiciens. Je veux dire, les gens meurent jeunes. La maladie, les accidents sont des taux de mortalité considérables. La formation de ces jeunes gens, et on parle essentiellement de garçons, puisqu'en fait, il n'y a pas de talent féminin, excepté Angelica Kaufmann.
Qui est déjà en Italie. Voilà. Donc elle est
et si vous voulez, maintenant, enfin, on a une, pour une Rosalba Carriera, pour une Angelica Kaufmann, pour une Elisabeth Vigée-Lebrun. Voilà. Oui. On n'est pas du tout dans la parité.
Non,
mais donc, ces jeunes gens meurent effectivement pour beaucoup très jeunes, mais comme ils ont été formés également très jeunes, il y a là un sens de la rigueur et de l'excellence qui donne des chefs-d'œuvre, absolument des chefs-d'œuvre. Et simplement, ces chefs-d'œuvre sont la plupart du temps réalisés sur papier pour les raisons dont nous venons de parler, mais aussi parce que ces artistes sont trop jeunes pour avoir reçu des commandes plus importantes. Donc, ils n'ont pas pu s'épanouir à travers une œuvre monumentale, disons, ou avec des œuvres de commande, des œuvres qui auraient pu participer à l'équivalent des salons. Et ce niveau d'excellence est tel qu'aujourd'hui, on le redécouvre et qu'il y a effectivement une floraison d'immenses talents à l'époque. Songeons qu'à un moment donné, la colonie allemande, la colonie d'artistes, à Rome, était de plus de 200 en une année, c'est énorme.
Oui, on va peut-être voir ça plus en détail dans la deuxième partie, quand on parlera des artistes et des œuvres. Vous avez très bien situé le cadre général du romantisme allemand, c'est-à-dire de ce mouvement. Mais aussi, est-ce que ces courants historiques, la Aufklärung, les Lumières, ensuite la Révolution française, Napoléon, et toute cette période va jusqu'au Biedermeier, c'est-à-dire jusqu'à la montée de la middle class, de la classe...
De l'art bourgeois.
De l'art bourgeois. Tous ces courants ont-ils une influence déterminante sur l'œuvre d'abord de Goethe? L'exposition couvre principalement cette époque. Et aussi, est-ce que tous ces artistes ont un lien direct avec, ou un lien particulier, par rapport à ces courants de l'histoire?
Oui, oui en général, mais plus précisément. Le siècle des Lumières, hein, le Aufklärung allemand, dont Goethe est évidemment l'un des tenants. C'est assez drôle parce que beaucoup plus tard, au soir de sa vie, il sera tout à fait contre les Nazaréens qui évidemment représenteront le modernisme allemand, en particulier d'obédience italienne et romaine. Mais le siècle des Lumières pousse évidemment non seulement la littérature, la musique, mais également les sciences. Et les sciences, ce sont tous ces nouveaux phénomènes d'observation que nous avons en France, évidemment, par l'encyclopédie et par tous les grands académiciens de cette époque. Mais vous avez un personnage absolument central pour toute la civilisation européenne à l'époque, qui est Alexander von Humboldt.
Mm-hmm.
Humboldt était un extraordinaire savant qui habitait très longtemps trois quais Malaquais, à côté de l'Académie, près de 25 ans, dans un immeuble aujourd'hui habité par un célèbre personnage de l'État. Et Alexander von Humboldt, qui a commencé comme géographe et comme botaniste, qui a sillonné les continents, en particulier d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, qui est un extraordinaire découvreur, qui a voyagé en particulier avec un autre géographe français qui s'appelait Bonpland, et il a rapporté un herbier où il y a plus de 1700 plantes qui ont été découvertes par lui. Il s'est également intéressé au ciel, à la météorologie. Est-ce qu'il y aura effectivement beaucoup, beaucoup d'incidences? Nous avons d'ailleurs cet extraordinaire dessin, cet autoportrait de Humboldt, autoportrait fait à Paris, autour de 1813, où on voit cet homme très affirmé, assez beau d'ailleurs, l'on distinguait, une très belle cravate au cou, enfin quelqu'un qui est respecté par tous et par chacun, et qui, non sans une certaine morgue, et sans une certaine fierté, tout à fait légitime d'ailleurs, se dessine avec un souci absolument parfait, je dirais, de l'exactitude de la ressemblance. Il n'est pas un observateur né pour rien. Et c'est une des très, très, très belles pages de cette exposition. Et Humboldt, qui faisait absolument le lien entre l'Allemagne et la France, qui parlait naturellement parfaitement français, mais comme dirait notre cher Marc Fumaroli, quand l'Europe parlait français, toute l'Europe parlait français au XVIIIe siècle. Mais Humboldt a été vraiment un personnage central par justement toutes ses études, la physique, la nature, la géographie, etc., sa curiosité et cette extraordinaire prescience, cette intuition tout à fait géniale. Mais dans le progrès des sciences, quelqu'un a commencé, je dirais, avant lui, c'est justement Goethe. Goethe publie, en 1783, si ma mémoire est bonne, un traité des couleurs. Goethe, à l'époque, aimerait être lui-même dessinateur et peintre. Il hésite encore entre la carrière littéraire et la carrière artistique. On connaît près de 3000 pages de Goethe, qui sont conservées dans la plupart des musées allemands, mais alors qu'il a publié très jeune Les souffrances du jeune Werther, très vite, il s'en dégage pour aller vers l'étude scientifique des couleurs. Ce que nous avons vu d'ailleurs à une exposition il y a quelques années au musée d'Orsay, sur qu'est-ce que l'art moderne. Eh bien, l'art moderne, au fond, il est quelque part un peu né des réflexions de Goethe sur la couleur.
Vous avez déjà en partie répondu à ma prochaine question. Quels sont les rapports ou les échanges entre la France et l'Allemagne, justement, à l'époque de Goethe? Alors, vous avez mentionné Humboldt, Goethe, qui lui-même collectionneur de dessins français du XVIIe et XVIIIe siècle. Nous avons fait une émission avec M. Pierre Rosenberg de l'Académie française, parce qu'il y avait une magnifique exposition à Jacques Marandré. Les échanges à l'époque sont, bon, les uns disent pour le meilleur ou pour le pire, parce que je crois que c'est Madame de Staël qui a un peu introduit cette mode.
Oui, alors Germaine de Staël, qui est quand même la fille de Necker, hein, c'est la fille quand même d'un des très grands ministres de Louis XVI, mais elle est suisse, elle est suissesse, elle est genevoise, ce que Napoléon, d'ailleurs, qui n'avait pas beaucoup de tendresse pour Germaine de Staël. Il fera d'ailleurs interdire l'un de ses livres, enfin le livre tout simplement de l'Allemagne. Il le fera interdire pendant 2 ans.
Et pourquoi ?
Parce qu'il devait y avoir une question d'animosité. Germaine de Staël n'a jamais réussi à séduire le jeune Bonaparte. Et voilà, il doit y avoir une raison de cet ordre en tout cas. Peut-être pas la seule. Ce qui est assez étonnant, c'est que Germaine de Staël, elle est quand même, c'est une femme. Et elle est traduite par Goethe lui-même.
Goethe,
oui, oui. Et ceci très tôt, puisque son essai sur les fictions a été traduit en 1796 par Goethe. Ce qui veut dire que tout de même l'Allemagne était, je dirais, naturellement beaucoup plus à l'écoute de la France que la France ne l'était de l'Allemagne. Mais que Goethe traduise l'ouvrage, un essai philosophique, par une femme est quelque chose d'encore plus étonnant.
Donc il fallait déjà qu'il parle bien français, suffisamment bien pour
traduire. Il le parlait très bien, puisque tout le monde le parlait bien à l'époque. Mais qu'il s'intéresse à l'ouvrage écrit par une femme, c'est quand même assez singulier.
Il aimait beaucoup les femmes, par ailleurs.
Oui, non mais il fallait avoir le tempérament...
Assez curieux,
le tempérament de Germaine de Staël pour s'imposer, comme plus tard le fera quelqu'un que nous connaissons bien au Musée de la vie romantique, qui est George Sand, qui est incontestablement peut-être la première femme moderne de la littérature française. Et Germaine de Staël, en ce sens, aura été probablement l'une de ses précurseurs. R.E.S.
Bien. Donc, les échanges, alors, commencent, on peut dire, par Germaine de Staël. Goethe traduit Madame de Staël à la cour prusse. Nous avons bien sûr les encyclopédistes,
bien
Voltaire.
Sûr.
Et puis plus loin, oui, il y a Heinrich Heine, qui est aussi un personnage qui fait l'aller-retour entre l'Allemagne et la France, le promeneur de Paris.
Oui, jusqu'au moment où justement il ne fera plus l'aller-retour, il ne restera qu'en France. Heine est évidemment le grand poète allemand de Paris. Il appartient à l'histoire de Paris autant qu'il appartient à l'histoire de la poésie allemande. Et lui-même, d'ailleurs, va traduire en allemand un certain nombre de poésies françaises, ce qui va effectivement, sur le plan intellectuel, si vous voulez, les échanges sont extrêmement nombreux, alors que sur le plan politique, évidemment, l'occupation des provinces allemandes par les troupes napoléoniennes sont une blessure absolument considérable. Et il est vrai qu'après l'idéal révolutionnaire qui avait enflammé toute une certaine élite allemande, on ne va pas employer le mot intelligentsia qui est un terme du 20e siècle, mais toute une élite intellectuelle, il est vrai qu'il y a eu là une blessure considérable.
Ah oui, c'est la Aufklärung, bien sûr.
Voilà.
Oui. Je vous suggère quand même, après ce survol des années Goethe, je vous propose une courte pause avant donc de pénétrer plus profondément dans l'œuvre des romantiques allemands. Vor dir gute Nacht, damit du mögest sehen, an dich hab ich gedacht, an dich hab ich En compagnie de Daniel Marchessault, directeur du musée de la vie romantique à Paris et co-commissaire de l'exposition « L'âge d'or du romantisme allemand », nous arrivons au cœur du sujet, les artistes. Ici, je voudrais quand même souligner un point qui mérite une attention particulière. Cette exposition d'œuvres apparemment ciblées sur un temps et un type d'œuvre ouvre néanmoins vraiment tout un univers. Il y a comme un effet de loupe sur l'âme de cette époque, avec ses élans métaphysiques et son enracinement dans le concret de la vie. Sont ainsi présentées 124 feuilles, vraiment de qualité exceptionnelle, signées de quelques 60 artistes. Daniel Marchessault, puis-je vous demander d'être notre guide ? On va commencer dans la première salle, où se trouve d'ailleurs un dessin de Johann Wolfgang von Goethe, une vue de Rome.
Ce dessin, qui est au fond une page de carnet, dit bien, il résume très très bien ce qu'est le romantisme allemand dans sa quête d'un univers diamétralement opposé à celui de l'Allemagne, qui est au fond Rome, la Rome éternelle, la Rome qui est à la fois d'obédience romaine, qui est à la fois la Renaissance et qui est à la fois le baroque. Et puis il y a cet aspect également de la randonnée, qui va être un phénomène très important à l'époque, qui est au fond la découverte à pied de ce qu'est la nature, de ce qu'est un paysage, de ce que sont des reliefs. Et on voit très précisément, on situe très précisément l'endroit où Goethe s'est assis sur une pierre et a pris cette espèce de petite page comme dans son, comme un carnet de, oui. Un carnet de journal intime. Et cette précision dans la notation qui colle parfaitement, je dirais, à la précision de la langue allemande. Lorsqu'on compare des dessins allemands et des dessins français, ils sont incomparables parce que l'allemand a un sens de la rigueur absolue. Il y a peut-être dans le fer, dans la facture française, une fantaisie, une interprétation, une touche peut-être plus, qui exprime peut-être mieux l'âme de celui qui dessine. Goethe est là, de même qu'il a écrit le Traité des couleurs dans ces années-là, il va également avoir cette étude très topographique, très précise.
Mais il y a beaucoup d'autres artistes dans l'exposition
oui.
qui ont beaucoup de fantaisie.
Absolument, oui.
Il y a aussi un Tischbein et oui. Rackert. Peut-être pas dans la première salle. Si, il y a Angelika Kaufmann, parce que Tischbein et Goethe sont ensemble à Rome. Et Goethe fait la rencontre de cette jeune Angelika Kaufmann, dont vous avez parlé tout à l'heure, et qui semble le séduire, en tout cas qui stimule ses esprits. Et puis, cette Angelika Kaufmann est très impressionnée par le grand Goethe, et elle fait un buste.
Effectivement, dans la feuille que nous présentons, c'est un hommage très direct à Goethe qu'elle représente sur sa feuille sous forme d'un buste placé en haut d'une stèle. Et il y a presque un autoportrait dans sa manière de dessiner cette offrande à Goethe, puisque au fond, elle reprend un buste de l'écrivain et elle campe cette scène un petit peu de fantaisie en hommage à l'écrivain.
Et puis, on parlait de Tischbein, un grand, enfin, il est très connu, qui est donc aussi ami de Goethe, enfin, au moins pendant un certain temps. Après, je crois qu'il s'éloigne un petit peu. Mais ils font ensemble une espèce d'épopée qui s'appelle Reinecke Fuchs, très connue en Allemagne, peut-être un peu moins ici.
Tischbein, en l'occurrence, là, il est plein d'humour. On parlait tout à l'heure de la rigueur, mais ça n'empêche pas l'humour. Et il, à travers un certain nombre d'animaux, il représente des événements de la vie politique.
C'est un peu polémique, oui. C'est une caricature un peu.
Ouais. Et tout ça est absolument...
C'est la politique en Allemagne.
En Allemagne.
Enfin, en Allemagne,
en Allemagne et en France.
Sous l'occupation napoléonienne.
Oui, les Français sont représentés pas très bien. Par des lièvres qui sont donc, chacun sait, des couards, qui se sont réfugiés. Ça, c'est pendant la bataille de Leipzig que naturellement toute l'Allemagne connaît bien. Il y a à la fois une certaine cruauté, un certain cynisme et une certaine gouaille, une gouaille picturale qui n'appartient qu'à Tischbein.
Oui. Et puis nous voyons aussi Chodowiecki.
Mmh. Alors, Chodowiecki est au fond peut-être plus dans la tradition du 18e siècle. Ce qui était intéressant, c'est que notre ami Heinrich Zeveking a bien montré d'où nous partions et jusqu'où nous allions. Donc, Chodowiecki, là, représente au fond ce qu'est la famille d'un commanditaire de dessin et qu'il représente à la fois dans l'harmonie de son salon, entouré de sa famille, et recevant lui-même le portrait de l'artiste. Donc, c'est un cas un peu particulier. On est plus, effectivement, dans la tradition de la première moitié du 18e. En revanche, il y a dans cette salle quelque chose qui est peut-être très typique de ce renouveau du sens de la nature. Alors nous sommes évidemment à l'époque de Jean-Jacques Rousseau et il y a une approche de la nature tout à fait nouvelle. Et nous parlions tout à l'heure de la randonnée. La randonnée va permettre à tous ces jeunes gens de découvrir la nature environnante et de la découvrir avec toute l'humilité de l'homme écrasé par une immensité. Et vous avez notamment ce portrait d'homme qui découvre une vallée noyée dans les nuages. Il est de dos, et vous verrez d'ailleurs dans cette exposition un certain nombre de personnages de dos. Donc l'expression de l'homme, de l'expression du visage n'apparaît pas. Mais en revanche, j'avais une espèce de prostration tout en étant également une posture de découverte, et on découvre la nature. On découvre la nature comme Humboldt va la découvrir pendant ses expéditions. Nous sommes donc à la fin du 18e, au début du 19e, où justement, après la Révolution, avec le changement de société, on va coloniser, on va aller vers l'autre, on va découvrir des continents, on va découvrir aussi bien la Russie que l'Orient, que l'Extrême-Orient, que l'Afrique. Et tout ça anticipe là-dessus. Et le jeune Allemand de l'époque, et on le verra avec Caspar David Friedrich et avec d'autres, vont se promener et vont découvrir la nature, vont la peindre, la croquer avec leur petit matériel qu'ils ont...
Littéralement sac à dos.
Sac à dos. Et c'est à ce moment-là ce qu'on appelle... la mode du wanderer, la mode du randonneur. on apprend à ce moment-là à découvrir la nature. Et par exemple, c'est l'époque où se crée à Munich le célèbre Jardin anglais, qui est l'un des plus grands parcs d'Europe, et où on incite les voyageurs, les peintres, à poser leurs palettes, à poser leurs chevalets pour peindre dans la nature. On est naturellement, nous sommes 50 ans avant l'impressionnisme, et on est quand même 30 ans avant ce que vont faire Turner, Bunnington dans les années 20, dans les années 30. Donc, il y a là...
Et c'est particulier à cette âme allemande, quand
oui,
même.
Oui, tout à fait.
Où se mêle l'hymne à la joie et la métaphysique.
Absolument,
c'est-à-dire... Et oui. Le Sturm und Drang, c'est-à-dire la révolution et l'élan vers le désir et vers la lumière et vers l'univers, etc.
Voilà, au fond, une fascination de l'être... je dirais très humble, et qui essaye d'embrasser l'univers avec les connaissances qu'il a, connaissances qui sont évidemment insuffisantes, mais qui lui permettent d'être fasciné, de respecter, d'être à l'écoute et d'aller à la rencontre de cette nature. Et ce qui n'est pas pour rien, c'est que le Wanderer en question, le randonneur, ça va donner naissance à la Wanderer Fantasy de Schubert, ça va donner naissance à des cycles de Lieder sur justement l'art de la promenade. Et tout ça est très propre à l'âme allemande, au génie allemand. N'oublions pas que la musique est aussi très, très
présente.
Très présente. Ouais. Et il y a là, justement, dans l'évocation du bruit des cascades, le bruit des glaciers. Ces dessins, pour beaucoup d'entre eux, évoquent le son, évoquent la musique, évoquent des livrets d'opéra. Nous avons La mort de Siegfried par Hagen. Nous avons de temps en temps des pages qui évoquent les opéras de Wagner avec 60 ans d'avance.
D'avance, oui, oui.
Et cette musique-là, c'est la
oui,
musique...
Oui, les Nibelungen, c'est quand même une épopée...
C'est une épopée médiévale,
profondément allemande,
mais profondément
chaque
allemande.
Chaque Allemand connaît, voilà. Bien sûr. Bah, oui.
Non, c'est pour
avec
ça que cette
fameuse feuille sur l'épaule, la feuille d'un arbre qui est tombé et qui le rend donc mortel, alors qu'il était trempé dans un bain pour rester immortel. Mais non, Hagen vise exactement cet endroit. Enfin, bon.
Avec le pieu, et voilà.
Oui. Oui. Et puis le grand Caspar David Friedrich.
Le grand Caspar David Friedrich, qui est au fond... celui qui aura cristallisé dans le génie germanique la passion pour la lumière. Et on le voit là par deux pages, deux paysages, exactement les mêmes à deux saisons différentes. On n'est pas du tout dans les meules de Monet, hein. On n'est pas du tout dans cette étude-là. On est devant quelque chose d'extraordinairement poignant, d'une immense beauté chromatique, et qui anticipe, là encore, sur la solitude de l'homme face à l'immensité de la nature telle qu'on va le voir dans ses grandes peintures. Et là, dans ces deux paysages, où il n'y a pas
d'homme
du tout, il n'y a aucune présence humaine, on est à la fois là, dans l'émerveillement de la nature originelle,
excusez-moi,
sans l'homme, avant l'homme.
Vous parlez donc du massif des Schneegruben,
oui,
dont il y a deux...
Il y a deux pages,
exactement,
pratiquement du même format, à deux saisons différentes, avec deux lumières différentes. Alors, là aussi, dans cette exposition, il y a quelque chose de fascinant. Ce sont les deux, je dirais, la main droite et la main gauche. La main droite qui est l'âme allemande baignée de lumière allemande, la lumière froide de l'Europe septentrionale, et la main gauche qui serait l'âme allemande fascinée par la lumière italienne. Là encore, ce sont deux appréciations chromatiques qui sont, à mon sentiment, ou selon ma sensibilité, très différentes de la fascination française pour la lumière italienne, qui est peut-être une lumière, peut-être plus une âme française, peut-être plus gourmande de picturalisme. En revanche, il y a dans ces études des artistes qui ont travaillé en Italie, et je pense en particulier à Franz Horny, qui est un coloriste étourdissant, tout à fait étourdissant dans ses évocations, notamment du village de Olevano, qui était une colonie germanique près de Rome, dans le Latium. Il y a là une justesse d'appréciation qui est d'autant plus étonnante qu'au fond, ils travaillaient tous sur des calepins, oui. La lumière
allant très vite. Et éventuellement l'aquarelle.
Enfin, la lumière change très vite, donc ils font quelques notations, et ensuite, à l'atelier, ils recomposent sur des pages de grand format, ils réinventent ce dont ils se souviennent. Mmh. Et ce qu'il y a d'extraordinaire chez Orny, Franz Orny, où nous avons quand même cinq superbes feuilles, d'une extraordinaire fraîcheur, il y a chez Orny, on sent une appétence pour cette lumière latine méridionale qu'il découvre en venant de son Europe centrale.
Oui, c'est même d'une grande modernité.
Oui, la mise en page est très extraordinaire, parce que vous avez tout d'un coup des perspectives inattendues, de grandes études de ciel également, et puis toujours un sens étourdissant du détail, du dessin.
Raffinement, du trait. Absolument. Oui, c'est vraiment impressionnant. Et puis l'Italie, bien sûr, nous en avons largement parlé. Caspar David Friedrich, j'avais noté quelque chose qui est vraiment très, très typique pour lui. Si vous permettez, je vais vous lire une petite phrase que j'ai trouvée, je crois, dans ses aphorismes. « Si la nuit même se levait, si un jour nocturne et une nuit diurne pouvaient nous embrasser tous, ce serait enfin le but suprême de tous les désirs. » Là, nous avons beaucoup parlé de la lumière et des paysages, mais il y a aussi cette notion de nuit, de forêt, de lac. Et là, donc, de jour nocturne et de nuit diurne, c'est une notion tout à fait révolutionnaire.
Oui, parce qu'on est là dans une contradiction dans les termes qui montre bien, justement,
le bouleversement mental.
Le bouleversement mental et le questionnement de ces, je dirais, de ces poètes du dessin qui s'interrogent.
Absolument, oui.
Et il y a à cet égard une page admirable de Moritz von Schwind, qui est l'apparition dans la forêt,
très grand, oui.
Qui est là encore un personnage de dos, qui est cette apparition absolument divine d'une femme suspendue, autant suspend ton vol, au clair de lune, découverte par un chevalier errant dans la forêt. Là encore, on est dans les contes et légendes du Moyen-Âge. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit aussi ça, on verra ça dans la poésie française des années 30. On se rend bien compte avec les premiers textes de Victor Hugo, cette fascination pour le monde de la nuit, le monde de l'étrange. Et Maurice von Schwind est là exactement dans ce que Friedrich évoque.
Oui. Et puis, les Nazaréens que vous avez déjà mentionnés tout à l'heure, donc avec un personnage central, Overbeck.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est l'un des seuls...
Il amène tout un groupe.
Voilà, il avait fondé à Vienne une confrérie qui s'appelait la confrérie de Saint-Luc, et pour s'opposer à l'enseignement un peu trop traditionnel. Quand il est arrivé en Italie, il s'est converti au catholicisme, ce qui est quand même déjà assez étonnant, parce que c'est l'un des rares qui ait fait ce cheminement. Il a totalement embrassé, je dirais, la terre italienne, et d'ailleurs il va y mourir. Il est entré en italianisme, si j'ose dire, et il va fédérer, il va créer cette espèce de phalanstère au cloître de San Isidro à Rome, où il va accueillir de nombreux jeunes artistes et il va définir avec eux les nouvelles règles d'un art dit nazaréen, revenant justement à des, alors on va, pour employer un mot contemporain, à des fondamentaux. C'est en ce sens qu'il va en être le mentor.
On pourrait presque dire que c'est un ancêtre, par exemple, des pré-raphaélites, ou de l'art nouveau, avec cette inspiration de Arts and Crafts.
Arts and Crafts, absolument.
Qui est un mouvement spirituel, afin de valoriser l'outil manuel.
Absolument, les arts appliqués. Et les arts appliqués. Overbeck, pour cela, va fédérer tous ces jeunes artistes qui vont d'ailleurs, entre autres, réfléchir à notamment l'ornementation des murs, etc.
Mais avant de nous quitter et de quitter les dessins du romantisme allemand, il serait intéressant pour nos auditeurs de vous entendre évoquer une œuvre qui vous tient particulièrement à cœur.
Il y a ce dessin extraordinaire de Schinkel qui s'appelle « Embarque sur le Königssee » près de Berchtesgaden et qui est un très très grand dessin qui est assez bouleversant, non seulement par sa technique admirable, extraordinairement fouillée, très très pointu. Mais là encore, c'est un dessin sonore. Il représente une très grande barque de promenade dans des gorges de montagne sur un lac, le Königssee. Et il y a là des chanteurs de cors, des souffleurs de cors qui accompagnent la promenade de ce groupe de wanderers, de randonneurs, de touristes. Hein, le tourisme est né à ce moment-là, dans toute l'Europe. Et il y a comme l'écho qu'il peut y avoir dans ces gorges profondes. Et il y a cette attention prodigieuse au reflet de l'eau, toute la nature qui se reflète dans le lac. Il y a le traitement de l'eau qui évoque, et notamment à l'endroit où les rames sont dans l'eau, qui évoque même certains traitements de l'estampe japonaise que l'on ne connaît pas à l'époque. Il y a dans les nuages qui sont suspendus entre ces deux gorges et dans ces montagnes, là encore quelque chose de tout à fait japonais, une appréciation totalement neuve du sens du paysage. Et à la fois par sa puissance évocatrice, par cette puissance musicale, sonore, extraordinairement dense, et puis la paix admirable de cette promenade très lisse sur l'eau. C'est un dessin qui est totalement fascinant. On aimerait qu'un des académiciens français écrive une page bucolique sur ce dessin de Schinkel.
De Carl Friedrich Schinkel. Nous arrivons peut-être à la fin de notre visite. Grâce à vous, Daniel Marcheseau, on a fait connaissance avec quelques figures emblématiques, dont bien sûr le grand Caspar David Friedrich. Ah, nous n'avons pas trop parlé encore de Otto Rung, qui a fait un magnifique océan. Vous voulez dire un mot, peut-être ?
Pour le soir, l'étude pour la grande décoration du soir, parce que là encore, c'est une évocation extraordinaire de la musique. C'est un projet de décoration murale qui n'a pas été exécuté. Et c'est un dessin tous ces dessins ne présentent aucune trace de repentir. Mais là, il y a chez Rung une maestria, à la fois dans la mise en page, dans la sûreté de main. Il y a même le sexe des anges, puisque vous avez des petits garçons et des petites filles, c'est tout à fait adorable. Et il y a là toute l'évocation d'un orchestre d'enfants, avec aussi bien le luth que le triangle, que le cor, que la trompette, que la viole, et tout ça, je dirais, sous les auspices de la nuit. Voilà, c'est un dessin tout à fait étourdissant, et Runge est probablement l'un des personnages les plus singuliers, les plus novateurs du romantisme groupe allemand, alors qu'il est mort, au fond, il est mort à 33 ans. Donc c'est, là encore, un génie qui a été fauché prématurément.
Nous avons bien sûr parlé de Tischbein, de Overbeck, Moritz von Schwind, les Nazaréens. Alors, peut-être un mot de conclusion, Daniel Marcheseau, de tout cet univers que vous avez si magnifiquement évoqué, et avec tellement d'images et avec un tel enthousiasme, vous nous avez fait cette traversée du romantisme allemand.
Eh bien, je crois que le romantisme allemand, dans l'art du dessin, n'est que l'une des facettes du génie germanique, qui évidemment s'illustre par ailleurs immensément en littérature, en poésie, et naturellement en musique. Voilà.
En tout cas, un grand, grand merci de nous avoir fait vivre cette richesse des aquarelles et des dessins si évocateurs de cette sensibilité. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs l'apparition, à l'occasion de cette exposition, d'un vraiment superbe catalogue, L'âge d'or du romantisme allemand, qui est paru par une édition Paris Musée. Vous pouvez en dire un mot ?
Oui, ce sont les éditions des musées de la ville de Paris,
ah oui,
qui s'appelle Paris Musée, et c'est un volume...
Un groupe d'éditions, oui. On peut commander ce catalogue, il est disponible au musée de la vie romantique, dont je rappelle sur notre site, bien sûr, l'adresse et le téléphone. Mais en tout cas, sous la direction donc, de Heinrich Sivekind, qui est le principal commissaire, et avec des contributions de vous-même, Daniel Marchessault, et de Pierre Rosenberg de l'Académie française, dans ce beau livre sont reproduits tous les dessins et aquarelles de l'exposition sur pleine page, avec des commentaires et analyses également sur pleine page des plus éminents spécialistes du romantisme allemand. Et c'est vraiment d'une qualité absolument exceptionnelle. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt pour une autre exposition au Musée de la vie romantique à Paris.
Merci beaucoup.